Bonjour, André Ruiz. Retrouvez-moi chaque mercredi sur Altitude FM 93.5 pour l'émission Théâtralité qui parle du théâtre amateur. Bienvenue dans Théâtralité. Comme nous vous en avons informé il y a déjà quelques temps, nous sommes actuellement en train de boucler un projet de feuilleton radiophonique policier qui sera très certainement diffusé sur les ondes d'Altitude FM en septembre prochain. Le titre en est « Qui a tué Richard Warwick ?», sujet tiré de l'œuvre d'Agatha Christie, un visiteur inattendu. Et nous avons pensé qu'il serait opportun de parler de cette immense autrice et de lui consacrer une série d'émissions. Nous commençons aujourd'hui par la première de celles-ci avec pour illustration son célèbre roman « Le meurtre de Roger Ackroyd ». Dont nos invités nous liront quelques extraits. Bonjour Françoise Bénard.
Bonjour André et bonjour Philippe.
Bonjour Philippe Merlan.
Bonjour, bonjour tous.
Merci de votre présence. Avant les lectures, quelques mots sur l'autrice que nous avons rapidement présentée lors de notre émission de janvier et sur la présentation du feuilleton, car Agatha Christie fait partie des écrivains les plus connus au monde, avec plus de 2 milliards de livres vendus. Elle reste l'une des auteurs les plus lus sur la scène mondiale. Elle est surtout connue pour ses romans policiers mettant en scène deux célèbres détectives, Hercule Poirot, détective professionnel belge, et Miss Marple, détective amateur. Agatha Christie est née le 15 septembre 1890 à Torquay et décédée le 12 janvier 1976 à Wallington, au Royaume-Uni. On la surnomme la reine du crime, car elle est l'un des écrivains les plus importants et novateurs du genre policier. Elle a aussi écrit plusieurs romans, donc quelques histoires sentimentales sous le pseudonyme de Mary Westmacott. De nombreuses adaptations de ses œuvres à l'écran ont été produites, comme le Crime de l'Orient Express, Dix petits nègres, que l'on nomme désormais Ils étaient dix, ou alors Mort sur le Nil. La plupart des intrigues se déroulent à huis clos, ce qui permet au lecteur d'essayer de deviner l'identité du coupable avant la fin du récit. La saveur de ces histoires réside dans la résolution de l'enquête, souvent improbable, prenant le lecteur par surprise. Le meurtre de Roger Ackroyd, en anglais « The Murder of Roger Ackroyd », a été écrit et publié en 1926, au Royaume-Uni, chez Collins. Alors, le pitch est le suivant. À King Abbott, commune fictive de la campagne britannique, Roger Ackroyd est assassiné dans son bureau. Le détective Hercule Poirot, détective belge, nous l'avons dit, s'est installé dans ce village après avoir pris sa retraite. Il mène l'enquête, accompagné de son voisin, le docteur Shepard, qui est également le narrateur de l'œuvre. Dans ce petit village britannique, tranquille et fictif, King's Abbott, une dame, Madame Ferrar, assassine son mari et est victime d'extorsion jusqu'à ce que, n'en pouvant plus, elle se suicide. L'homme qu'elle aimait, Roger Ackroyd, reçoit une lettre révélant le nom de l'extorqueur qui l'a conduite à une fin funeste. Mais avant même qu'il n'apprenne l'identité du personnage, Roger Ackroyd est assassiné. Poirot, récemment retiré à King's Abbott, est appelé pour tenter de résoudre cette sombre affaire. Le roman est écrit sous la forme d'une narration. Je recommence. Le roman est écrit sous la forme d'une narration par l'un des villageois, le docteur Shepard. La fin du roman est considérée comme l'une des plus surprenantes et inattendues de toute la collection d'Agatha Christie. Le docteur Jam Shepard, donc le narrateur, n'a pu sauver Madame Ferrar, qui vient de se suicider. Il est invité par Roger Ackroyd, grand industriel, ami très proche du docteur et amoureux de Madame Ferrar. La veille, celle-ci lui a confié avoir empoisonné son mari un an auparavant et être victime d'un maître chanteur dont elle n'a pu lui donner le nom de vive voix. Ackroyd révèle tout ceci au docteur après le dîner, quand Parker, le maître d'hôtel, apporte le courrier dans lequel se trouve une lettre de Madame Ferrars. L'industriel demande être seul dans son bureau pour la lire, le docteur rentre chez lui et dans la nuit, il est appelé par une personne qui, se faisant passer pour le maître d'hôtel, lui dit qu'Aykroyd a été assassiné. Voici un extrait du chapitre 5, la découverte du corps, lu par Philippe.
Je sortis rapidement ma voiture du garage et partis pour faire un lit. Je sonnais avec impatience, j'entendis un bruit de chaîne et Parker, dont la figure impassible ne donnait aucun signe d'émotion, se montra sur le seuil. Je le bousculai et entrai. « Où est-il ? » demandai-je vivement. « Qui donc, monsieur ?»« Votre maître, monsieur Aykroyd. » « Ne restez pas là à me regarder. Avez-vous prévenu la police ?»« La police, monsieur ? La police ?» reprit Parker en me considérant avec stupeur. « Qu'avez-vous donc, Parker ? Si, comme vous le dites, votre maître a été assassiné, le maître d'hôtel poussa un cri. « Mon maître assassiné ? C'est impossible !» Ce fut à mon tour de le regarder avec stupéfaction. « Ne m'avez-vous pas téléphoné il y a 5 minutes pour me prévenir que monsieur Aykroyd a été trouvé mort ?» Moi, monsieur ? Certainement non, monsieur. Pourquoi aurais-je fait une chose pareille ? Voulez-vous dire que c'est une mystification et qu'il n'est rien arrivé à monsieur Aykroyd ? Pardon, monsieur, s'est-on servi de mon nom en téléphonant ? Je vais vous répéter les mots exacts que j'ai entendus. Le docteur veut-il venir ? Tout de suite, monsieur Aykroyd a été assassiné. Parker et moi, nous nous regardâmes en silence. « C'est une triste plaisanterie, monsieur, » dit-il enfin d'un ton scandalisé. « Comment a-t-on pu parler ainsi ?»« Où est monsieur Aykroyd ?» demandai-je brusquement. « Toujours dans son cabinet, je pense, monsieur. Ces dames se sont retirées, le major Blunt et monsieur Raymond sont dans la salle de billard. »« Je vais entrer pour le voir à l'instant, » dis-je. « Je sais bien qu'il ne veut pas être dérangé, mais ce coup de téléphone m'a inquiété, je veux m'assurer qu'il se porte bien. »« Certainement, monsieur. Moi-même, je ne suis pas tranquille, et si monsieur... » veut me permettre de l'accompagner jusqu'à la porte. Sans aucun doute, venez. Suivi de Parker, je franchis une porte, traversai un petit vestibule où partait l'escalier qui conduisait à la chambre à coucher d'Aykroyd et frappai à son cabinet de travail. Personne ne répondit. Je tournai la poignée, mais la porte était fermée. « Que monsieur me permette, » dit Parker. Avec beaucoup d'agilité chez un homme de sa corpulence, il se laissa tomber sur un genou et appliqua son œil au trou de la serrure. « La clé est sur la porte à l'intérieur, monsieur, » dit-il en se relevant. « Monsieur Aykroyd a dû s'enfermer, puis sans doute s'endormir. Je vais baisser et vérifier l'affirmation de Parker. Tout paraît normal, mais cependant, Parker, je vais veiller votre maître, car je ne serai rassuré que si je l'entends me dire lui-même qu'il se porte bien. » Ce disant, je secouai la poignée en criant « Aykroyd, Aykroyd, veuillez m'écouter !» Toujours pas de réponse. Je regardai par-dessus mon épaule et dis en hésitant « Je ne veux pas semer l'alarme dans la maison. » Parker longea le vestibule et alla fermer la porte qui séparait celui-ci du grand hall que nous venons de quitter. « Je crois qu'on n'entendra rien, monsieur. La salle de billard est de l'autre côté de la maison, ainsi que les chambres de ces dames et les cuisines. » Je fis un signe affirmatif, puis je heurtai violemment la porte et, me baissant, je hurlai littéralement à travers la serrure. « Aykroyd, Aykroyd, c'est Shepard ! Laissez-moi entrer !» Toujours même silence. Aucun signe de vie ne se manifesta dans la pièce fermée. Parker et moi échangeâmes un regard. « Je vais, ou plutôt nous allons enfoncer cette porte, » dis-je. « J'en prends la responsabilité. »« Si monsieur croit, » commença le maître d'hôtel d'un ton dubitatif. « Certainement, » interrompis-je, « car maintenant, je suis tout à fait inquiet au sujet de monsieur Aykroyd. » Je regardai autour de moi et saisis une lourde chaise de chêne. Et de Parker, nous nous enfrappâmes la serrure. Celle-ci céda au troisième coup et nous nous précipitâmes dans la pièce. Aykroyd était assis où je l'avais laissé, dans un fauteuil près du feu. Sa tête s'inclinait sur le côté et juste au-dessus du col de son vêtement, on apercevait un objet métallique brillant. Maître d'hôtel et moi avançâmes et nous penchâmes sur le corps affaissé. Parker poussa un gémissement et murmura « Il a été frappé par derrière, c'est horrible !» Il essuya son front moite à l'aide de son mouchoir, puis étendit le bras vers le poignard. « Il ne faut pas toucher à cela, » dis-je vivement. « Allez-y vite au téléphone et prévenez la police. Puis appelez M. Raymond et le major Blunt. »« Bien, monsieur. » Parker sortit en hâte, toujours en s'essuyant le front, et je fis le peu qu'il y avait à faire. J'eus soin de ne pas déplacer le corps et de ne pas porter la main sur le poignard. Cela ne lui servait à rien, car il était évident qu'Aykroyd était déjà mort depuis quelque temps. Puis j'entendis la voix d'angoissé, mais incrédule, du jeune Raymond s'écrier. « Que dites-vous? C'est impossible! Où est le docteur ?» Il apparut sur le seuil, puis s'arrêta brusquement, très pâle. Une main l'écarta, et Hector Blunt entra. « Mon Dieu, dit Raymond, mais c'est donc vrai ?» Blunt vient tout droit vers le corps sur lequel il se pencha. Je crus que, comme Parker, il allait essayer de tirer l'arme. Je lui saisis le bras et l'éloignai. « Il ne faut rien déranger, expliquai-je, car la police doit trouver le corps dans la même position. » Blunt acquiesça immédiatement. Son visage était aussi immobile que jamais, mais je crus y discerner une émotion. Geoffroy Raymond nous avait rejoints maintenant et regardait le cadavre par-dessus l'épaule de Blunt. « C'est terrible, dit-il à voix basse. » Il avait repris sans un froid, mais tandis qu'il ôtait pour l'essuyer le lorgnon qu'il portait habituellement, je remarquai que sa main tremblait. « Le vol a été le mobile du crime, je suppose, dit-il. Comment l'assassin est-il hanté? Par la fenêtre? A-t-on dérobé quelque chose ?» Tout en parlant, il se dirigea vers le bureau. « On croyait qu'il s'agit de vol, » dis-je lentement. « Comment pareille chose pourrait-elle s'expliquer autrement? Je pense qu'il n'est pas question de suicide. » « Aucun homme ne pourrait se frapper lui-même ainsi, » dis-je avec calme. « C'est bien un meurtre. Mais pourquoi a-t-il été commis ?»« Roger n'avait pas un ennemi au monde, » déclara Blunt avec calme. « Ce ne peut être que l'œuvre de cambrioleur. Mais qu'a-t-on volé? Rien ne semble avoir été dérangé. » On regarda autour de lui. Rien ne paraît manquer et aucun des tiroirs n'a été fracturé, dit enfin le secrétaire. C'est fort mystérieux.
Malgré le grand nombre de critiques suscitées à l'époque par un tour de force narratif, ce roman a rendu Agatha Christie mondialement célèbre et reste parmi les plus fameux de son œuvre. La romancière utilise avec virtuosité des techniques de manipulation pour détourner l'attention du lecteur. Françoise nous dit la suite de ce chapitre 5.
Blunt fit un léger signe de tête. « Il y a des lettres par terre, dit-il. » Je regardai, 3 ou 4 plis se trouvaient encore là où Aykroyd les avait laissés tomber au début de la soirée. Toutefois, l'enveloppe bleue contenant la lettre de Madame Ferrars avait disparu. J'ouvris la bouche pour parler, mais au même instant, le bruit d'une sonnerie retentit. Un murmure confus de voix se fit entendre dans le hall et Parker entra, suivi de l'inspecteur de la police locale et d'un constable. « Bonsoir, messieurs, dit l'inspecteur. Je suis désolé. Un homme aussi bon que Monsieur Aykroyd. Le maître d'hôtel dit qu'il s'agit d'un meurtre. N'y a-t-il pas possibilité d'accident ou de suicide, docteur ?»« Aucune, répondis-je. Ah, mauvaise affaire. » Il s'approcha du corps et demanda « A-t-il été touché ?» « Je ne l'ai pas remué et n'ai fait que constater la mort, ce qui m'a été facile. »« Ah, tout porte à croire que le meurtrier s'est échappé, du moins pour le moment. »« Maintenant, racontez-moi tout. Qui a découvert le cadavre ?» Je lui expliquai les faits avec soin. « Vous avez reçu une communication téléphonique, dites-vous, du maître d'hôtel ?»« Je n'ai pas téléphoné, » déclara Parker vivement. « Je ne me suis pas approché du téléphone pendant toute la soirée. Les autres domestiques pourront en témoigner. » « C'est très étrange. La voix que vous avez entendue ressemblait-elle à celle de Parker, docteur ?»« Je ne puis vous l'affirmer, je l'ai cru. »« Naturellement. Bref, vous êtes arrivé ici, vous avez enfoncé la porte et vous avez trouvé le pauvre Aykroyd dans cette position. »« Depuis combien de temps croyez-vous qu'il soit mort, docteur ?»« Une demi-heure au moins, peut-être plus longtemps, dis-je. »« La porte était fermée à l'intérieur, m'avez-vous déclaré. »« Et la fenêtre ?» Je l'avais fermé moi-même au début de la soirée, sur la demande de M. Aykroyd. L'inspecteur se dirigea de ce côté et tira les rideaux. « En tout cas, elle est ouverte maintenant, » déclara-t-il. Et en effet, la fenêtre était ouverte. L'inspecteur prit une lampe de poche et en éclaira l'appui. « Voici le chemin par lequel le meurtrier est sorti, » s'écria-t-il, « et aussi entré, regardez !» Et à la lueur de la lampe, plusieurs empreintes de pas se distinguaient. Elle paraissait avoir été faite par des souliers dont les semelles étaient munies de talonnettes en caoutchouc. Une de ces empreintes, particulièrement nette, avait la pointe en dedans. L'autre, qui recouvrait en partie la première, avait la pointe en dehors. « C'est clair comme de l'eau de roche, » dit l'inspecteur. « Manque-t-il des objets de valeur ?» Raymond secoua la tête négativement. « Je ne constate rien. Monsieur Aykroyd ne gardait jamais rien de précieux dans cette pièce. »« dit l'inspecteur. L'homme a trouvé une fenêtre ouverte. Il l'a escaladée, a vu Monsieur Aykroyd assis à cette place où, sans doute, il s'était endormi. Il l'a frappé par derrière, puis il a perdu la tête et s'est enfui en laissant des traces assez nettes. Nous devons pouvoir nous emparer de lui sans grande difficulté. Est-ce qu'aucun étranger suspect n'a été vu dans les environs ? Ah ! Fis-je brusquement. Mais qu'y a-t-il, docteur ? J'ai rencontré un homme ce soir, juste comme je sortais de la propriété, et il m'a demandé le chemin de Fernley Park. Quelle heure était-il ? 9 heures exactement. J'ai entendu sonner l'heure au moment où je franchissais la grille. Quel homme d'homme était-ce ? Je le décrivis de mon mieux, l'inspecteur se tourna vers le maître d'hôtel. Est-ce qu'une personne répondant à ce signalement s'est présentée à la porte d'entrée ? Non, monsieur, personne n'est venu ce soir. Et à la porte de service ? Je ne crois pas, monsieur, je vais m'informer. Il fit un pas vers la porte, mais l'inspecteur leva la main. Non, merci. Je ferai mon enquête moi-même. Mais d'abord, je veux fixer un peu plus nettement le détail de l'heure. Quand Monsieur Aykroyd a-t-il été vu vivant pour la dernière fois ? Probablement par moi, dis-je, lorsque je le quittais à, voyons, environ 9h moins 10. Il m'a dit qu'il ne voulait pas être dérangé et j'ai répété ses ordres à par cœur. En effet, répondit respectueusement celui-ci. Monsieur Aykroyd était certainement encore vivant à 9h30, interrompit Raymond, car je l'ai entendu parler. À qui parlait-il ? Ah, je l'ignore. J'ai cru à ce moment-là qu'il était encore avec le docteur Shepard et je voulais lui poser une question au sujet d'un travail dont il m'avait chargé, mais lorsque j'ai entendu des voix, je me suis souvenu qu'il avait déclaré vouloir demeurer seul avec le docteur et je me suis retiré. Cependant, il semblerait que le docteur était déjà parti. « J'étais rentrée à 9h15, déclarai-je, et je ne suis ressortie qu'après la communication téléphonique. Qui paraissait être avec lui à 9h30 » demanda l'inspecteur. « Ce n'était pas vous, monsieur Major Blunt, présentai-je. »« Major Hector Blunt ?» demanda l'inspecteur dont la voix prit une expression de déférence. Blunt se contenta de faire un signe affirmatif. « Je crois que nous nous sommes déjà vus ici, monsieur, reprit l'inspecteur. Je ne vous ai pas reconnu tout de suite, mais n'avez-vous pas fait un séjour chez monsieur Aykroyd l'année dernière, au mois de mai ?»« Juin, corrigea Blunt. En effet, c'était en juin. Ainsi que je vous le demandais tout à l'heure, vous trouviez-vous à 9h30 avec monsieur Aykroyd ?» Blunt secoua la tête. « Je ne l'ai pas vu depuis le dîner, déclara-t-il. » L'inspecteur se tourna de nouveau vers Raymond. « Avez-vous entendu la conversation ?»« J'en ai saisi des bribes, déclara le secrétaire, et croyant que M. Aykroyd était avec le docteur Shepard, je l'ai trouvé bizarre. Autant que je puisse me souvenir, voici ce que disait M. Aykroyd. Les emprunts faits à ma bourse ont été si fréquents récemment que je crains de ne pouvoir accéder à votre requête. Je m'éloignai immédiatement et je n'entendis plus rien. Mais je fus assez surpris parce que le docteur Shepard n'emprunte ni pour lui ni pour les autres, achevai-je. Une demande d'argent ? Répéta l'inspecteur d'un air pensif. C'est peut-être là un indice fort important. Il se tourna vers le maître d'hôtel. « Vous dites par cœur que personne n'a été introduit par vous ce soir. »« Oui, monsieur. » »« Donc, il paraît certain que monsieur Croy lui-même a ouvert à cet inconnu. »« Pourtant, je ne vois pas... » Ici, l'inspecteur se plongea dans une profonde méditation. « Il y a tout au moins une chose acquise, » reprit-il au bout d'un instant. Monsieur Aykroyd était bien portant à 9h30 et c'est le dernier moment où l'on soit sûr qu'il était encore vivant. Parker toussa discrètement, ce qui attira l'attention sur lui de l'inspecteur. « Quoi ? » dit celui-ci vivement. « Veuillez m'excuser, monsieur. Miss Flora a vu son oncle après cette heure-là. »« Miss Flora ?»
En apparence, le meurtre a eu lieu aux environs de 10h. Flora a été vue sortant du bureau à 7h et on a entendu une discussion entre Aykroyd et un inconnu. La police recherche activement Ralph Patton, convaincu de sa culpabilité, notamment à cause des empreintes de chaussures devant la fenêtre du bureau d'Aykroyd. Pendant 2 jours d'enquête, Poirot s'attache à des détails négligés par la police. Pourquoi a-t-on appelé le docteur pour le prévenir en pleine nuit du meurtre? Pourquoi un meuble du bureau d'Aykroyd, une bergère, a-t-elle été déplacée après le crime? Combien de paires de chaussures Patton détient-il? Qui se trouvait dans le pavillon et qui a laissé un morceau de batiste, un morceau de tissu? À qui appartient l'alliance retrouvée dans le bassin? Pourquoi manque-t-il 40 livres dans une enveloppe contenant une forte somme d'argent que M. Aykroyd avait placée dans un tiroir d'un meuble qui se trouvait dans la chambre plus tôt dans la soirée du meurtre? Poirot dénoue les intrigues qui paralysent son enquête. Le jour du meurtre, Mrs. Aykroyd, la belle-sœur de la victime, avait cherché à prendre connaissance de son testament, à lui dérober certains bibelots qu'elle comptait vendre à fort prix. Le soir du meurtre, Miss Flora Aykroyd a été surprise, alors qu'elle quittait la chambre de Roger en lui volant 40 livres, par le maître d'hôtel. Elle a donc fait semblant de quitter le bureau de son oncle, ce qui modifie les données sur l'heure du crime. Geoffrey Raymond, de son côté, avait des dettes. Parker avait fait chanter son précédent employeur, qui avait donc peur qu'on l'accuse du chantage de Miss Ferrar. Miss Russell, un fils caché qui se drogue, Charles Kent. C'est lui que le docteur a surpris le soir du meurtre. Ursula et Ralph s'étaient mariés quelques mois auparavant, le 13 mars, sans que ni Miss Flora ni personne le sache. Seul Roger Aykroyd était au courant le jour de son meurtre, et c'est pour cette raison que la domestique a été renvoyée. Poirot réunit tous les protagonistes. Il révèle que Miss Russell rencontre son fils dans le pavillon, que Ralph Patton et Ursula Bourne se rencontrent aussi au même endroit, ce qui explique la présence du bout de batiste appartenant à l'uniforme d'Ursula Bourne. Il annonce également que Roger Aykroyd était mort lorsque Blunt l'a entendu parler. C'est en fait son dictaphone mis en marche par le meurtrier qui a produit le son de sa voix. Par la même occasion, il avertit l'entourage d'Aykroyd que le meurtrier est dans la salle et qu'il le dénoncera à la police le lendemain. Poirot fait alors entrer Ralph Patton. Le docteur Shepard reconnaît l'avoir caché dans une clinique. Voici la fin du chapitre 25 et le chapitre 26. Rien que la vérité d'Hercule Poirot, dite par les voix de Philippe et Françoise.
Récapitulons maintenant que tout est clair. Le coupable est un homme qui est allé aux Trois Dindons ce jour-là, qui connaissait assez bien M. Aykroyd pour savoir qu'il avait acheté un dictaphone et qui possédait certaines notions de mécanique. Un homme qui a eu l'occasion de retirer le poignard de la vitrine avant l'arrivée de Miss Flora et qui s'était ménagé le moyen de dissimuler et d'emporter le dictaphone dans un sac noir. Par exemple, un homme enfin qui demeurait seul dans le cabinet de travail quelques minutes après la découverte du crime, pendant que Parker téléphonait pour appeler la police en un mot, le docteur Shepard. Il y eut un silence de mort pendant une minute, puis j'éclatai de rire. « Vous êtes fou, dis-je. »« Non, répondit Poirot avec calme, je ne suis pas fou. C'est la petite différence d'heure qui a dès l'abord attiré mon attention sur vous. » « La petite différence d'heure ? » demandai-je intrigué. « Mais oui. Rappelez-vous que tout le monde, vous compris, a été d'accord pour déclarer qu'il fallait 5 minutes pour aller de la maison à la grille, et même un peu moins, en prenant le raccourci qui conduit à la terrasse. Or, vous avez quitté la maison à 9h10, d'après votre déclaration, corroborée par celle de Parker, et pourtant, il était 9h lorsque vous avez franchi la grille du parc. » La soirée était froide et la température ne devait inciter personne à s'attarder. Pourquoi donc vous a-t-il fallu 10 minutes pour faire un trajet qui n'en demandait que 5 tout au plus? Depuis le début, je m'étais aperçu que seule votre affirmation nous donnait à penser que la fenêtre du cabinet de travail était bien fermée. Aykroyd, vous l'avez demandé, mais n'était pas allé le vérifier. Supposons donc qu'elle était ouverte. Auriez-vous en 10 minutes le temps de sortir de la maison, de changer de soulier, d'entrer par la fenêtre, de tuer Aykroyd et de gagner la grille. Cette hypothèse ne me parut pas vraisemblable, car, nerveux comme l'était ce soir-là le maître de Fairley, il vous eût entendu venir et il y aurait eu lutte. Mais ne l'aviez-vous pas tué avant de partir, pendant que vous étiez debout derrière son fauteuil? Ensuite, vous seriez sorti par la porte principale. Vous auriez couru jusqu'au pavillon et pris les souliers de Ralph Patton dans le sac que vous aviez apporté. Vous les auriez mis et vous auriez traversé un endroit boueux afin de laisser des empreintes sur l'appui de la fenêtre. Puis vous auriez escaladé celle-ci, fermé à clé la porte à l'intérieur. Enfin, vous seriez retourné au pavillon pour remettre vos propres chaussures et vous auriez couru jusqu'à la grille. J'ai entrepris de répéter ces divers actes l'autre jour pendant que vous causiez avec Madame Aykroyd. Et le tout m'a demandé juste 10 minutes. Après cela, vous êtes rentré chez vous, ce qui vous a fourni un alibi, puisque vous aviez pris vos mesures pour que le dictaphone parlât à 9h30. « Mon cher Poirot, dis-je, d'une voix qui résonna étrange et forcée à mes propres oreilles, vous avez travaillé sur cette affaire depuis trop longtemps. Pourquoi aurais-je tué Aykroyd ?»« Pour assurer votre sécurité. C'est vous qui avez fait chanter, Madame Ferrars. » Qui mieux que le médecin ayant soigné son mari pouvait savoir comment celui-ci était mort? Le jour où dans le jardin vous m'avez parlé pour la première fois, vous avez fait allusion à un héritage que vous auriez recueilli il y a environ un an. J'ai fait une enquête et n'en ai trouvé aucune trace. Mais il fallait que vous inventiez une explication en ce qui concernait les 25 000 livres de Madame Ferrars. Cette somme ne vous a d'ailleurs guère été profitable, car vous en avez perdu la plus grande partie en spéculation. Alors vous avez exagéré, Madame Ferrars a choisi un moyen d'évasion que vous n'aviez pas prévu. Si Aykroyd avait appris la vérité, il n'aurait eu aucune pitié pour vous, et vous auriez été irrémédiablement perdu.
Et l'appel téléphonique, demandai-je en essayant de me ressaisir. Je suppose que vous en avez aussi trouver une explication satisfaisante. Je vous avoue que c'est ce qui m'a été le plus dérouté. Lorsque j'ai constaté qu'on vous avait effectivement téléphoné de la gare Kingsbridge, j'avais cru d'abord que vous aviez tout simplement inventé cette histoire. C'était au contraire fort habile de votre part. Il vous fallait une raison pour revenir à Fairley, trouver le corps et vous procurer ainsi l'occasion d'enlever le dictaphone, grâce auquel vous pourriez invoquer un alibi. Je n'avais qu'une idée très vague de la manière dont vous aviez pu opérer lorsque je vins pour la première fois voir votre sœur et lui demandai quels étaient les malades que vous aviez reçus le vendredi matin. Je ne pensais pas à Miss Russell à ce moment-là et sa visite a constitué une heureuse coïncidence, car elle a détourné votre esprit du but réel de ma question. Je découvris ce que je cherchais. Parmi vos clients se trouvait ce jour-là le steward d'un paquebot américain. N'était-il pas vraisemblable que ce devait être lui qui était parti pour Liverpool par le train du soir? Ensuite, il devait être en mer hors d'atteinte. Je notais que l'Orion avait appareillé samedi et, m'étant procuré le nom de son steward, je lui posai une question par sans fil. C'est sa réponse que je reçus tout à l'heure. Poirot me tendit le télégramme qui était ainsi conçu. Fort exact, le docteur Shepard m'avait demandé de déposer une lettre chez un de ses clients et de lui téléphoner la réponse de la gare. Je lui ai téléphoné. Pas de réponse. « Vous avez eu là une idée géniale, déclara Poirot. La communication téléphonique avait existé et votre sœur, vous avez vu la recevoir. Mais une seule personne au monde pouvait en répéter les termes. Vous. » Je bâillais. « Tout ceci est fort intéressant, dis-je, mais je n'en vois pas la conclusion. Vraiment ? Souvenez-vous de ce que j'ai dit. L'inspecteur Raglan saura la vérité demain matin. Mais à cause de votre excellente sœur, je veux bien ouvrir une porte de sortie. Une dose trop forte de narcotiques, par exemple. Vous me comprenez? Le capitaine Ralph Patton doit être disculpé, cela va sans dire. Et je vous propose de terminer votre intéressant manuscrit en renonçant à vos réticences. Vous ne paraissez pas à court de suggestions, remarquai-je. Avez-vous terminé? Puisque vous m'y faites penser, j'ai encore un mot à vous dire. Il serait très maladroit de votre part de chercher à me réduire au silence par le moyen que vous avez employé pour M. Croyd. Vous comprenez bien que ce genre d'opération ne réussit pas à Hercule Poirot. Mon cher Poirot, répondis-je en souriant un peu, quelle que soit votre opinion à mon sujet, faites-moi la grâce de croire que je ne suis pas un imbécile. Je me levai. Il faut que je rentre. Merci pour votre intéressante et instructive soirée. Poirot se leva et s'inclina avec sa politesse accoutumée, tandis que je quittais la pièce.
Par égard pour Caroline, Poirot laisse une alternative à Shepard, aller en prison ou se suicider, option que choisit le docteur. Mais Shepard avait sans doute déjà pour projet de se suicider puisqu'il voulait publier son récit pour montrer un crime non élucidé par Poirot. Pour en finir, il choisit le Véronal comme Madame Ferrard. Le meurtre de Roger Ackroyd est le premier roman qu'Agatha Christie écrit pour son nouvel éditeur William Collins, chez qui est ensuite resté. L'idée d'un narrateur coupable lui aurait d'abord été suggérée par une discussion avec son beau-frère qui aurait affirmé vouloir lire un roman où Watson serait coupable. Plus tard, Lord Mountbatten lui aurait demandé par courrier une histoire où le narrateur serait l'assassin. Dans son autobiographie, Agatha Christie ne décrit pas le processus d'écriture, indiquant simplement « L'idée me paraissait ingénieuse, j'y réfléchis longuement. Elle présentait d'énormes difficultés. » Le roman est dédié à Punky, surnom de la sœur d'Agatha Christie, Madge Watt. Le meurtre de Roger Ackroyd occupe la 5e place au classement des 100 meilleurs romans policiers de tous les temps, établi en 1990 par la Crime Writers Association. Il est également à la 12e place au classement américain des 100 meilleurs livres policiers, établi en 1995 par l'Association des Mystery Writers of America. Dans un long article du New York Times Book Review, du 18 juillet 1926, on pouvait lire. Il y a sans doute de nombreux romans policiers plus passionnants et plus effrayants que Le meurtre de Roger Ackroyd, mais très peu qui récemment offrent une analyse aussi exaltante. Le roman, bien qu'il ne soit pas au niveau des meilleurs, se trouve dans la tradition des contes de Poe ou des romans de Sherlock Holmes. L'auteur, au lieu d'utiliser son talent à susciter frissons et sensations fortes, se consacre à résoudre l'énigme de façon logique et conventionnelle. Madame Christie n'est pas seulement une romancière experte, doublée d'une remarquable narratrice, elle sait aussi plutôt bien ne dévoiler que le minimum d'indices concernant le véritable meurtrier. En l'occurrence, grâce à l'ingéniosité de l'auteur, l'identité du meurtrier s'avère franchement déconcertante, étant donné son rôle dans l'histoire. Et pourtant, la description vague du personnage en fait un suspect tout à fait convenable. Le lecteur expérimenté le repérera probablement, mais on peut dire à coup sûr qu'il aura souvent des doutes pendant le déroulement de l'intrigue. Merci Françoise, merci Philippe, et à très bientôt pour d'autres lectures.
Avec plaisir.
À bientôt.
À bientôt. Notre émission est maintenant terminée. Voici la citation du jour. Vis aujourd'hui comme si c'était le dernier jour et fais des projets comme si tu étais là pour l'éternité. Elle est bien sûr d'Agatha Christie. Vous retrouverez toutes ces informations et bien d'autres sur le site de l'Union Régionale, fncta-medipi.fr. Allez voir le théâtre amateur, c'est du théâtre de qualité, joué, mis en scène, éclairé et sonorisé par des passionnés de théâtre. C'était Théâtralité, l'émission du comité départemental FNCTA de la Haute-Garonne, émission qui parle du théâtre amateur. N'oubliez pas de nous retrouver tous les mercredis à 12h30 sur Altitude FM 93.5. Bonne journée à tous et à mercredi prochain. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.